Bah, merci beaucoup. À mon tour de, voilà, de remercier les organisateurs pour cette invitation. Je suis très contente d'être ici, très ravie d'avoir entendu l'exposé de Michel Amon qui donne un peu une relecture du livre de Gobelot qui est très stimulante. Alors donc moi la commande qu'on m'a passée, hein, c'était à la fois de réagir à la présentation de Michel Lallemand, mais aussi et surtout de vous présenter le travail que j'ai produit pour ma thèse et que j'ai publié en février dernier, qui est intitulé « Rester bourgeois, les quartiers populaires, nouveau chantier de la distinction ». Alors j'imagine que le lien a été fait avec ces termes clés « bourgeois, distinction ». Et donc il faut que je revienne un petit peu aussi sur le titre de cet ouvrage. Et voilà, mais il est effectivement question dans ce travail, très largement, de travailler sur une fraction de la bourgeoisie que j'ai aussi appelée dans ma thèse en fait fraction des classes moyennes ou des classes moyennes supérieures. J'ai un peu tourné autour du pot, je vais y revenir dans un instant. Mais aussi sur la gentrification, c'est-à-dire un phénomène de transformation. De quartiers, de morceaux de ville, de travailler sur ce phénomène comme sur un phénomène de reclassement d'un espace, de reclassement social d'un espace. Donc je pense effectivement qu'il y a des points, des lignes un petit peu de continuité entre Gobelot, alors via Bourdieu, hein, je suis désolée.
Non, mais moi, c'est pas un souci.
Voilà. Donc du coup, effectivement, je vais présenter mon travail tel que je l'ai fait, parce que c'est une mission impossible et même une assez mauvaise idée d'essayer de refaire son propre travail en le passant à la moulinette d'une autre lecture. Donc j'ai pas cherché à relire mon travail à la lumière de La barrière et le niveau de Gobelot. Mais néanmoins, alors, et moi je m'étais plutôt effectivement quand même appuyée sur le travail de Pierre Bourdieu dans La distinction, que vous allez voir, mais du coup je trouve ça très intéressant et très stimulant, notamment cette dernière partie de l'exposé, donc c'est pour ça que je voulais surtout pas qu'elle soit rabotée, parce que...
C'est gentil, merci.
Voilà, parce que c'est l'explication de ces deux paralogismes, de ces deux raisonnements faux, à la limite, moi ça m'est égal qu'ils soient faux ou justes, mais... c'est la force, l'efficacité de ce qui se présente comme un syllogisme qui effectivement peut-être au principe de la puissance des classements et des reclassements opérés par la fraction sociale que j'ai étudiée. Alors un peu plus concrètement, donc voilà la jolie couverture que La Découverte m'a concoctée. Les éditions La Découverte sont aussi les responsables du titre de l'ouvrage, Rester bourgeois. Et donc juste un petit mot là-dessus, en fait j'ai pas utilisé le terme de bourgeoisie dans ma thèse, et de manière peut-être assez paradoxale, puisque comme je vous le disais, je me suis quand même inspirée du travail de Bourdieu, notamment de ce qu'il a écrit sur la petite bourgeoisie nouvelle, dans La distinction. Pour expliquer un petit peu le refus de ce terme bourgeois, mon travail se situait non seulement dans le champ de la sociologie des classes sociales, mais aussi dans le champ des études urbaines, de la sociologie urbaine, et notamment des études sur la gentrification, qui est un domaine travaillé aussi bien par la sociologie que par la géographie. Et dans ce domaine, ce champ est structuré par des débats assez vigoureux autour de... notamment du retour en force de la géographie critique et de la manière dont elle est mise en œuvre ici en France. Et donc, l'emploi du terme bourgeois ou bourgeoisie va de pair avec, parfois, hein, et c'est pas forcément un bon usage de la géographie critique, avec une dénonciation ou un jugement, justement, un jugement de valeur porté pour le coup à l'encontre de cette bourgeoisie. Et donc voilà, une charge critique, une charge ironique est associée à ce terme de petite, alors surtout à coupler avec l'adjectif petite, hein, petite bourgeoisie culturelle, petite bourgeoisie intellectuelle, petite bourgeoisie nouvelle, sont les expressions qu'on peut voir passer, et qui, à mes yeux, voilà, portait une charge que je ne voulais pas reprendre à mon compte, et qui pour le coup était quand même aussi déjà présente dans le travail de Pierre Bourdieu, comme l'ont montré certains collègues, je pense notamment à la relecture de ce passage de La distinction par Marie-Hélène Le Chien dans l'ouvrage La distinction 30 ans après. Donc voilà, malgré tout, ce titre finalement, donc il a été choisi pour des raisons éditoriales, parce que c'est accrocheur, mais aussi parce que, enfin, à vrai dire, il me fait aussi avancer, progresser, etc. Et finalement, peut-être assumer un peu mieux que oui, quand même, c'est de la sociologie, de la bourgeoisie, que en fin de compte, les gens dont je parle sont d'une certaine façon des bourgeois. Comme Gobelot le dit dès les premières pages de son livre, on peut être bourgeois en étant fauché. Voilà, c'est un petit peu la situation des gens dont je parle, même s'ils ne sont pas non plus pauvres. Mais enfin, disons que ce n'est pas la richesse économique qui fait leur appartenance à la bourgeoisie. Alors, comment moi j'ai construit mon travail ? Donc, mon objectif, un de mes objectifs, celui que je vais plus mettre en avant aujourd'hui, c'était de travailler sur un groupe social. Sur ce groupe social qui a été appréhendé dans les années donc 70-80 par différents travaux sous le vocable donc soit de la petite bourgeoisie nouvelle, soit des nouvelles classes moyennes, hein, par d'autres auteurs comme Catherine Bidou notamment, et travailler sur cette nébuleuse ou ce groupe social, la question était pendante, hein, est-ce qu'il forme un groupe social cohérent, et ses transformations depuis ces années 70-80, voilà, en prenant par l'autre bout du spectre ceux qu'on désignait dans la presse au moment où j'ai commencé ma thèse par le terme de bobo. Donc travailler sur cette fraction de l'espace social, on va dire, sur ces transformations depuis les années 70-80 et sur sa diversité interne à partir de ces espaces et de ces manières d'habiter. Alors, l'entrée que j'ai choisie, c'était donc celle des quartiers en gentrification. Alors que désigne ce terme barbare ? Maintenant, il est assez répandu, mais néanmoins, je vous donne une petite définition. Il s'agit de la transformation d'anciens quartiers populaires de centre-ville qui passe par l'afflux de populations nouvelles, hein, d'habitants nouveaux, qui appartiennent aux classes moyennes et ou supérieures, et une transformation donc, à la fois de la composition sociale du quartier, mais aussi du bâti, hein, cette transformation passe par une réhabilitation, une reconversion du bâti ancien. Donc c'est pas une transformation par démolition, reconstruction, mais plus par réhabilitation, transformation spontanée, on va dire à l'échelle des ménages, d'un bâti ancien. Ça a toute son importance parce que c'est pas du tout les mêmes acteurs. Donc en fait, selon la définition qu'on retient, il y a aussi des définitions de la gentrification qui englobent ces opérations un peu macro de restructuration du tissu urbain par les pouvoirs publics avec l'aide de promoteurs immobiliers, etc. Et donc là, même si on trouve des points communs, quand même, on parle plus du tout des mêmes acteurs ou des mêmes processus. Donc la définition a de l'importance. Et donc ce qui est intéressant dans ce processus de transformation sociale et matérielle d'un quartier, c'est qu'il s'accompagne aussi d'une transformation économique et symbolique, hein, l'image du quartier change, les pratiques en vigueur dans ce quartier changent, les prix de l'immobilier changent, et donc on a affaire à une revalorisation, un changement de valeur, et donc des changements aussi de jugement de valeur portés sur ces espaces-là, ou autrement dit un reclassement de ces espaces dans la ville. Donc voilà, processus de revalorisation économique et symbolique d'un morceau de ville, de reclassement, auquel des habitants participent, à côté évidemment d'acteurs professionnels, hein, qui jouent aussi leur rôle, les habitants y participent par leur choix résidentiel, mais aussi par leur manière d'habiter les lieux, de transformer les lieux par des travaux, mais aussi par des usages quotidiens, et donc à travers la manifestation quotidienne de leur goût, de leurs préférences, de leur disposition, par la mise en œuvre de leurs ressources, les habitants vont participer au changement urbain. Et pour aller un petit peu, enfin voilà, développer un petit peu la thèse que je vais expliciter par la suite, ces habitants que je vais appeler gentrifieurs, en les définissant non pas par, strictement parler, leur position dans l'espace social, mais par le travail qu'ils mènent sur l'espace, ces gentrifieurs, par ce travail qu'ils mènent sur l'espace, retirent un certain nombre de profits de distinction qui contribuent individuellement à la définition de leur position sociale collectivement à tracer les contours d'un groupe social. Donc je m'inscris là complètement en fait dans une tradition de la sociologie urbaine, hein, qui considère que D'abord, que les espaces sont façonnés par les groupes sociaux, mais aussi que, inversement, les espaces contribuent à la définition des groupes sociaux à travers tout un tas de choses, à travers les manières d'habiter, les proximités qui s'établissent, les normes qui se mettent en place dans certains espaces. Les groupes sociaux se forment et leurs frontières se négocient aussi dans l'espace à travers ces manières d'habiter. Je pense évidemment au travail des Pinsons Charlot qui m'a pas mal inspirée sur la bourgeoisie et ses espaces, mais aussi des travaux plus historiques sur les petites classes moyennes dans la banlieue pavillonnaire, dans l'entre-deux-guerres, etc., les travaux d'Yves Grafmeyer sur Lyon, bien évidemment, ou encore, pour renvoyer à la période dont il a été question précédemment, le travail de Catherine Bidou relisant l'œuvre de Proust, et notamment montrant à quel point l'espace parisien joue un rôle dans la montée en puissance de la bourgeoisie au détriment d'une aristocratie, traditionnelle. Alors, comment j'ai mené mon travail ? J'ai donc exploré deux terrains. L'un qui est le quartier des Pentes de la Croix-Rousse, que vous connaissez sans doute très bien, qui est un peu un cas canonique de la gentrification, et en fait sur lequel je ne vais pas tellement m'étendre aujourd'hui, puisque finalement je l'ai analysé plutôt à travers le prisme de l'analyse des générations de gentrifieurs et l'analyse des mutations de ce groupe social. Je vais laisser ça de côté aujourd'hui et plutôt me focaliser sur le deuxième terrain, le cas du Bas-Montreuil en région parisienne, qui était un processus de gentrification un peu plus récent, disons qui a démarré au milieu des années 80, mais de manière plus lente que dans les Pentes de la Croix-Rousse, et qui était en quelque sorte le reclassement de cet espace était en cours au moment où moi j'ai fait mon terrain, entre 2005, j'ai fait mon enquête de terrain entre 2005 et 2007, et lorsque je me suis inscrite en thèse en 2003, c'était les premiers articles de presse qui à la fois parlaient des bobos, alors ça c'est arrivé en 2000, et puis 2000, 2001, 2002, 2003, c'est les années où il y a une production médiatique importante sur les bobos, mais aussi sur la banlieue Est qui se gentrifie, sur les artistes qui débarquent à Montreuil, etc. Et donc la ville de Montreuil est systématiquement prise dans tous ces articles comme le terrain où les journalistes vont rencontrer ces bobos. Qui sont ces bobos ? Ils sont à Montreuil, donc on va aller les voir à Montreuil. Alors, les trois questions qui ont guidé mon travail, là aussi de manière un peu, dans l'ensemble de la thèse, c'était qui sont ces gentrifieurs des années 70 aux années 2000 dans les deux quartiers ? Quelle recomposition et quels héritages des nouvelles classes moyennes ? Donc, essayer d'appréhender où est-ce qu'ils se situent dans l'espace social, quelles sont une sociologie des classes sociales, on va dire, et leur transformation dans le temps. Je ne vais pas traiter de ça aujourd'hui. Quels sont les ressorts sociaux de la gentrification et comment ils ont évolué avec les mutations des villes, avec les mutations des politiques publiques et de la structure sociale. C'est pareil, je ne vais pas tellement développer ça aujourd'hui, mais c'est présent dans le livre, une approche vraiment d'essayer de montrer la gentrification comme un produit aussi de la transformation de la société, des transformations du marché immobilier, des politiques urbaines, etc. Et puis, troisième question, qu'est-ce que ces gentrifieurs font à l'espace ? Dans quelle mesure les habitants participent à la transformation de l'espace ? Et en même temps, qu'est-ce que ça leur fait en retour d'être pris et d'être actif dans ces transformations urbaines ? Montreuil, donc quelques éléments pour contextualiser, parce qu'il faut avoir un petit peu en tête, surtout qu'on va parler, on a parlé vêtements, langage, habitudes, etc., salon bourgeois, là on a un travail qui passe par l'espace, donc il faut visualiser un petit peu les choses. On est donc en petite couronne parisienne,
banlieue Est,
limitrophe du 20e arrondissement, et le quartier dont il est question, le Bas Montreuil, est justement ce quartier qui est attenant au 20e arrondissement de Paris, qui se situe dans le prolongement du faubourg Saint-Antoine, qui est lui-même le prolongement vers l'est depuis lorsque vous partez de Bastille, qui se place aussi sur une carte de la gentrification pour ceux qui connaissent Paris et ses transformations, extension vers l'est d'un processus déjà entamé de longue date. C'est un quartier de faubourg, faubourg ouvrier développé à partir du milieu du 19e siècle, et qui a pour caractéristique, je ne rentre pas dans les détails, mais une caractéristique importante pour comprendre ce phénomène de gentrification, c'est que c'est un tissu ouvrier constitué de petites usines et de petits ateliers, et non pas de très grandes emprises, comme d'autres secteurs comme Saint-Denis, Aubervilliers, etc., où là, l'action des pouvoirs publics est quasiment indispensable, ou alors de très gros investisseurs comme ICAD, Veolia, etc. À Montreuil, on a un tissu qui est relativement appropriable par des ménages, hein, étant donné que les lots ne sont pas énormes. Qu'est-ce qu'il faut savoir également avoir en tête voilà, ce tissu urbain et savoir que donc c'est une ville, enfin il y a un quartier ouvrier qui était encore très actif sur le plan industriel au début des années 70 et où la crise industrielle a été vraiment fracassante au sens où elle a été extrêmement rapide et brutale. Hein, La ville a perdu trois quarts de ses emplois industriels en moins de 10 ans, entre 76 et 87, dont les deux tiers étaient situés dans ce bas Montreuil, le reste de la ville étant un peu plus résidentiel, composé de pavillons et de grands ensembles, pour simplifier un peu. Donc, ces locaux hein, qu'on voit sur ces photos se sont trouvés bien souvent vidés de leur activité, et autour, le logement ouvrier, avec des maisons plus ou moins cossues, plus ou moins vastes, s'est trouvé aussi dégradé parce qu'il y avait un vieillissement de la population sur place, parce que le quartier n'était pas attractif sur le plan résidentiel, et il y a eu donc un déclin démographique. Hein, pareil, le quartier a perdu 10% de ses habitants entre 75 et 90, ce qui est assez remarquable comme rapidité du déclin démographique. Bref, dès le milieu des années 80, ces friches vont être convoitées et réutilisées progressivement, hein. Mais on observe donc avec les statistiques du recensement un renouvellement de la population qui est quand même assez rapide, puisque même pendant cette période, pendant que le déclin démographique continue, le renouvellement est déjà largement à l'œuvre. Entre 90 et 99, on compte 40%, enfin en 99, on compte 40% d'habitants qui n'étaient pas là au recensement précédent. Donc le renouvellement est assez fort et on aura le même taux de renouvellement dans les années suivantes. C'est déjà dans la décennie 80, pardon, ce taux de renouvellement, et à nouveau dans la décennie 90. Alors, ce qui est intéressant, c'est qui sont les gens qui vont être intéressés par ces friches, par ces petites maisons ouvrières. Alors, les friches, elles attirent dans un premier temps. Certaines attirent des populations qui sont de squatteurs, des marchands de sommeil qui vont vendre des adresses à des familles, notamment immigrées, qui n'ont pas encore accès au logement social, mais aussi des travailleurs, des professionnels qui vont être intéressés par ces locaux parce que, aux portes de Paris, avoir de l'espace pour développer une activité, c'est intéressant. Et donc, les premiers à être intéressés par ces locaux, ça va être notamment des décorateurs de théâtre et de cinéma qui trouvent des espaces pour entreposer, fabriquer et entreposer leurs décors. Donc c'est un petit peu comme ça qu'ensuite, par un phénomène de bouche à oreille, l'opportunité de s'installer, le fait de savoir qu'il y a de l'espace pas trop cher et que c'est un morceau de ville qui n'est pas si désagréable que ça, va se diffuser dans les milieux du théâtre et du cinéma et de la photographie également. Voilà, donc ces professionnels sont suivis dans les années 90 et dans les années 2000 par d'autres ménages de ces milieux-là, mais qui ne sont pas forcément eux-mêmes décorateurs ou photographes, qui n'ont pas forcément besoin de ces espaces vraiment pour travailler, mais qui vont s'y intéresser, les convoiter également pour vivre, et qui vont s'intéresser aussi aux maisons individuelles, dont les prix restent extrêmement raisonnables jusqu'au début des années 2000. Alors, ça c'est une photo de la rue de Paris, qui est la rue un peu structurante du quartier, juste pour vous montrer qu'on a, voilà, on a affaire à un paysage urbain très modeste, très hétéroclite. On a peu d'architecture remarquable. Vous trouverez très très peu d'immeubles haussmanniens à Montreuil. Il y en a 2-3 situés autour d'une place, la place Jacques Duclos, mais voilà, très peu d'immeubles bourgeois remarquables, un habitat de qualité assez médiocre. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est ces maisons, hein, des maisons qui sont à proximité de Vincennes et qui, voilà, qui sont assez jolies, mais qui sont pas très grandes et qui, par contre, ont un jardin à l'arrière, une parcelle tout en longueur de jardin. Voilà, bon, ça c'est juste une petite carte pour objectiver un petit peu la transformation sociale, mais je passe assez vite l'augmentation de la part des diplômés dans les années 90 et le tableau tout pourri. Oui. Je m'excuse. Il y a deux tableaux qui se sont superposés, je croyais que j'avais enlevé l'autre. Bref, et ben tant pis, on passe. Enfin, de toute façon, vous me faites confiance. Il y a une forte croissance de la part des cadres dans le quartier. Ça montrait juste que la croissance, c'est qu'au départ, il y a moins de cadres dans le Bas-Montreuil qu'à Montreuil, à Montreuil qu'en région parisienne. Voilà, et que ben, la tendance inverse, c'est qu'en 2006, il y en a plus à Montreuil, dans le Bas-Montreuil qu'à Montreuil et qu'en Ile-de-France. Alors, mon enquête pour aller voir un petit peu comment ça s'est passé. Alors, donc, juste, moi, quand j'ai commencé mon travail, la transformation du peuplement, elle était donc déjà largement amorcée, mais elle s'est considérablement accélérée dans les années 2000. Moi, j'avais les statistiques de recensement de 99 au début, après j'ai eu celle de 2006, où là, il y a eu une accélération très forte entre 99 et 2006, et ça a continué. Vraiment, le rythme n'est pas du tout le même. Hein. L'accélération est très nette dans les années 2000, mais elle va de pair avec le moment de l'envolée des prix immobiliers dans le Bas-Montreuil, qui a été là aussi extrêmement rapide, puisque les prix, évidemment, dans un contexte où de toute façon, l'augmentation était très rapide dans le cœur de l'Île-de-France, mais dans le Bas-Montreuil spécifiquement, les prix ont triplé entre 98 et 2007, hein, en 9 ans. Donc, une augmentation des prix extrêmement rapide et voilà, période de changement maximal du renouvellement, enfin du profil sociologique des habitants et également période de changement dans les représentations. Et ça, alors je comptais le dire à la fin, mais en fait c'est mieux ici, c'est que une petite revue de presse que j'ai menée montre que les occurrences du terme Montreuil dans la presse quotidienne locale et nationale montrent que jusqu'en 99, le terme Montreuil est systématiquement associé à des articles qui concernent tout un ensemble de thématiques liées à ce qu'on appelle généralement la thématique les banlieues, les quartiers sensibles, les problèmes sociaux dans les banlieues, l'illettrisme, la pauvreté, la drogue, les problèmes de la jeunesse, etc. Les seules occurrences qui ressortent sont celles qui sont associées à des encarts dans Le Parisien qui annoncent soit le festival du livre de jeunesse, soit une projection particulière. Je le cite parce que ce sont ces deux institutions, le cinéma local et puis le salon du livre de jeunesse, qui vont en fait être mis en avant dans le renouvellement de l'image des lieux comme étant des institutions locales extrêmement importantes. Et puis à partir de 2000, l'occurrence Montreuil, hein, j'ai pas cherché Bas-Montreuil, j'ai cherché Montreuil, et ça bascule très très nettement et très radicalement. On a deux types d'articles, on a surtout principalement des articles sur l'immobilier, donc les dossiers immobiliers, où acheter à Paris, etc., qui ne parlent quasiment que du Bas-Montreuil. Hein, le reste de la ville, sur lequel étaient focalisés les articles jusqu'à la fin des années 90, les grands ensembles, etc., disparaissent complètement. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de papiers sur le Bas-Montreuil, les investissements que l'on peut y faire, les usines qu'on peut acheter, qu'on peut transformer, et puis les bobos, la thématique bobo qui débarque, etc. Donc c'est dans ce contexte-là que moi j'ai mené mon enquête, avec donc différents matériaux, mais je vais surtout m'appuyer dans ce qui suit sur les entretiens. C'est le matériau principal de ma thèse, des entretiens approfondis avec une trentaine de ménages dans chacun des deux quartiers, avec les entretiens réalisés au domicile des personnes, et puis des photos des logements prises lorsque moi j'ai fait l'entretien, et puis je leur demandais aussi de me montrer, quand c'était possible, des photos du logement avant les travaux, lors de leur arrivée. Les ménages que j'ai rencontrés sont donc arrivés sur toute cette période que je viens de décrire, 85-2007. Ce sont en majorité des propriétaires de leur logement qui vivent surtout en maison individuelle ou dans un local industriel qu'ils ont transformé, et assez peu en appartement. C'est un corpus qui est, que je n'ai pas souhaité, représentatif de la population bas-montreuilloise, mais qui me permettait de saisir ceux que j'ai appelés les gentrifieurs, c'est-à-dire les ménages les plus actifs dans la transformation. Hein, donc c'est vraiment un miroir grossissant, une loupe. Je ne dis pas que tous les ménages des classes moyennes supérieures qui sont installés à Montreuil ont agi comme ceux que je vais vous présenter après. Je suis arrivée sur le terrain en cherchant à saisir ceux qui avaient fait au minimum quelques travaux dans leur logement, mais même changer la peinture, le papier peint, des choses pas énormes. Et en fait, j'ai été plus que servie. J'ai rencontré des gens qui avaient transformé complètement une usine, qui avaient étendu leur pavillon en rajoutant un étage. Enfin, voilà, j'étais en thèse et je voulais travailler là-dessus. Je me suis laissée aussi fasciner par ce matériau-là, de gens qui avaient plus que transformé l'espace. Donc ils sont surreprésentés dans mon corpus. Leur profession relève, si on les classe parmi, dans les CSP, des cadres et professions intellectuelles supérieures et des professions intermédiaires, et relève de la production et de la diffusion artistique et culturelle. Journaliste, le plus souvent pigiste, chef opérateur de cinéma ou télévision, plasticien, graphiste, danseuse, photographe, conceptrice d'exposition, rédactrice et correctrice dans l'édition, éditeur scientifique, éditeur web, etc. Les photographes, les graphistes, etc. sont très largement freelance. Et puis, j'ai quelques enseignants, quelques cadres du public et encore moins du privé, qui sont urbanistes, un expert comptable, une dentiste, mais pas en centre social, ce qui a du sens, une institutrice, des enseignants d'art. Voilà, qu'on reste dans cette nébuleuse de la production ou de la diffusion des arts ou de la culture ou de l'activité intellectuelle. Ce qui est assez remarquable du coup dans ce corpus, c'est le fait que les statuts d'emploi sont assez variés. J'ai pas mal d'intermittents du spectacle, mais aussi des indépendants, des gens qui sont à leur compte, des gens qui n'ont pas vraiment de statut, enfin qui ont le statut de la maison des artistes, qui ouvre pas beaucoup de droits, et puis quelques salariés également quand même, hein, mais aussi bien en CDD qu'en CDI, des revenus également assez hétérogènes, allant de environ 2000 euros à 4000 euros par ménage, hein, pas par individu. Donc des revenus qui sont assez moyens et des revenus qui sont aussi irréguliers et incertains pour tous ceux qui sont intermittents ou indépendants. Voilà, autre chose qui m'a frappée, puisque c'était une question importante dans les travaux des années 70-80, la question de la mobilité sociale et des origines de ces gens. Et donc les trajectoires sont aussi bien ascendantes que descendantes dans mon corpus. C'est moitié-moitié, hein, vraiment, je dirais. C'est aussi pour ça que le titre proposé par La Découverte me gênait, parce que rester bourgeois sous-entend que... l'idée, en fait, c'était de sous-entendre comment rester bourgeois quand on n'en a plus les moyens. Alors, c'était ça, l'idée du titre. Et c'est valable pour la moitié de mon corpus, mais l'autre moitié, c'est plutôt comment devenir bourgeois quand on en a moyennement les moyens, quoi, grosso modo. Donc deux types de trajectoires. Ce qui explique quand même qu'ils puissent accéder à la propriété, c'est que j'ai des couples mixtes du point de vue de la trajectoire. C'est-à-dire que très souvent, hein, y a un ascendant, un descendant, et donc y en a quand même un qui a du patrimoine à apporter. Donc peut-être juste une chose sur laquelle je me suis un peu arrêtée dans la thèse, c'est justement sur la question de ces trajectoires, puisque dans le passage de la distinction de Bourdieu sur la petite bourgeoisie nouvelle, il y avait des choses assez intéressantes sur cette question de la trajectoire et sur la manière dont ces membres de la petite bourgeoisie nouvelle parviennent à prolonger une trajectoire ascendante, hein, pour ceux qui sont d'origine populaire ou des petites classes moyennes, soit à rétablir une trajectoire descendante lorsqu'ils sont originaires de fractions plus traditionnelles de la bourgeoisie, notamment en produisant, je reprendrai les termes de Bourdieu, en produisant des postes ajustés à leurs ambitions plutôt que d'ajuster leurs ambitions aux postes existants. Et il désigne par là toute une frange de professions nouvelles, ou en tout cas dont le contenu est profondément renouvelé à cette période-là. Profession du graphisme, de la publicité, de différents usages de pratiques artistiques comme la photographie, mais qui vont être mises au service de professions de la communication, etc. Où la mise en scène de soi-même est très importante. Et j'ai retrouvé donc dans mon corpus un certain nombre de ces mécanismes, et je les détaille un tout petit peu parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à mes yeux, ils vont être mis en œuvre également dans le rapport à l'espace. Je m'explique. Dans mon corpus, j'ai donc des ascendants, hein, qui sont originaires de petites classes moyennes. J'ai pas mal d'enquêtés dont les parents étaient artisans, des artisans coiffeurs, comme un tout petit salon de coiffure dans les Vosges, artisans électriciens dans le bâtiment. De ce type-là, ou également des parents ouvriers. Ces enquêtés ont fait des études nettement plus longues que leurs parents, et notamment sont passés par des filières soit d'art, soit de sciences humaines et sociales, mais en menant leurs études un peu comme ci, comme ça, avec des années de trous, en devant travailler à côté, avec une motivation un peu parfois fluctuante, et en recourant également au bluff, dont Bourdieu parle pas mal aussi. Ils recourent au bluff quand il y en a besoin, c'est-à-dire ils mentent sur leur capacité, sur leurs compétences pour obtenir, décrocher un job. Donc on a différentes trajectoires comme ça qui finalement après différentes hésitations entre des filières, les enquêtés vont choisir une profession dans le domaine culturel exercée comme indépendant, alors même que parfois ils ont eu l'opportunité de gagner plus en étant salarié. Mais l'accès à l'indépendance, être indépendant, est en fait une forme d'ascension sociale. Donc je peux prendre l'exemple de Jean, par exemple, dont les parents sont ouvriers, et qui a arrêté assez tôt le lycée, qui est parti de chez lui, et qui finalement a repris des études de sciences sociales, mais ça ne marchait pas trop, qui a à côté voulu faire de la danse, ensuite a donc suivi des études de danse, a commencé à exercer des jobs de danseur, donc il y a des jobs rémunérés à la télé par exemple, ou dans des boîtes de nuit comme danseur, où il était relativement bien payé, mais c'était un peu au coup par coup. Et puis en parallèle, également un moment pour financer ses études, il a travaillé dans les établissements scolaires comme surveillant, et puis ça lui apportait non pas de l'argent, mais plutôt une stabilité, un revenu correct, pas énorme, mais relativement sûr. Puis, il hésitait un peu entre ces deux voies-là, salarié mais petit salaire, voilà, ou bien un travail plus artistique mais un peu au coup par coup. Et puis finalement, en traînant dans le monde de la nuit, il a l'occasion de réaliser des vidéos sur les soirées qu'il fréquente, et puis de se lancer du coup dans la production de vidéos, de ces petites vidéos de soirées, et puis de gravir progressivement les échelons en étant d'abord assistant de prod, etc., jusqu'à devenir lui-même producteur pour le milieu de la télévision. Et donc, il préfère devenir indépendant que de rester salarié. Un autre exemple intéressant, c'est celui de Julie, qui est originaire des classes moyennes, vraiment, une mère institutrice, un père dessinateur industriel, et qui, elle, fait des études d'architecture, veut faire architecture, mais n'obtient pas le bac, passe un bac pro, etc., et finalement entre dans une école d'architecture d'intérieur et de décoration, avant ça, elle a fait des études de graphisme aussi, et qui finalement sort diplômée de ces écoles, qu'elle a vraiment menées à force du poignet, en travaillant à côté, etc. Mais c'est des études qui ne donnent pas le diplôme d'architecte DPLG, elle ne peut pas signer des plans. Donc elle se fait embaucher dans des agences d'archi comme gratteuse, donc elle va dessiner des plans, ça lui rapporte pas mal, elle fait de l'intérim, ça lui rapporte pas mal d'argent, elle gagne facilement 2000 euros par mois. Mais ça lui plaît pas trop, et donc elle décide de se mettre à son compte comme graphiste pour architecte, ce qui est, comme elle me l'explique, une profession qui n'existe pas vraiment en France, qui existe aux États-Unis mais pas en France, et qui est un peu un créneau pour lequel il faut se mettre à son compte pour que les agences puissent vous embaucher juste à la journée et vous remercier le lendemain, mais où en gros elle sait qu'elle a une sorte de niche, qu'il n'y a personne qui fait ça. Donc elle invente, elle ajuste son poste à ses ambitions, comme disait Bourdieu. Donc elle préfère prendre des risques, elle gagne d'un seul coup deux fois moins, elle est à 1000 euros par mois, mais elle a le statut d'indépendante, elle choisit ses commandes, elle choisit ses horaires, etc. Et puis on a également des descendants qui, eux, sont originaires de la bourgeoisie intellectuelle, justement de ces nouvelles classes moyennes des années 70 qui auraient bien réussi, enseignant aux arts déco, universitaires, architectes, etc., ou originaires de la bourgeoisie traditionnelle, qui, eux, font également des études d'art et de sciences humaines et sociales de la même façon, c'est-à-dire pas forcément de manière hyper brillante, et qui, eux, vont s'engager dans la voie artistique et qui, finalement, exercent des professions, sinon identiques, ou en tout cas très proches, mais dans un registre très différent, pas du tout comme indépendants du secteur culturel, mais comme artistes, et qui le vivent sous l'angle plutôt de la vocation artistique, le registre de la vocation, du virtuose désintéressé, que l'argent n'intéresse pas vraiment, qui a juste besoin d'avoir de quoi vivre, et qui font le choix également de se positionner dans l'avant-garde artistique, hein, dans l'alternative, aux marges, aux franges de ce qui se fait centralement. Donc ils vont soit aller vraiment vers les arts plastiques, vers la photographie, ou alors dans le cinéma, ça va être le cinéma documentaire. Dans l'édition, ils vont choisir de travailler dans des maisons d'édition indépendantes et ou politiques, etc. Voilà, donc c'est des trajectoires qui prennent sens également après dans le rapport à l'espace. Alors, plus prosaïquement, comment se retrouve-t-il à Montreuil? Ça va très vite, hein, ils souhaiteraient, ça je le dis clairement, ils n'ont pas un amour inconsidéré de la banlieue communiste, ni de la population immigrée, ni une volonté de dépaysement ou d'exotisme. Non, ils voudraient bien rester dans Paris, ils voudraient bien rester dans des quartiers déjà gentrifiés qu'ils fréquentent beaucoup et où ils résident pour la plupart, mais c'est devenu trop cher. Et également, ils ont besoin d'un espace pour travailler, parce que épouser ces professions-là, indépendantes, artistiques, etc., c'est ne pas avoir de lieu de travail. Donc il leur faut un espace pour travailler. Il faut aussi pouvoir loger sa famille quand on arrive au tournant des 35 ans, 40 ans, et puis essayer d'accéder à la propriété, parce que ce sont aussi des professions qui ouvrent des droits à la retraite un peu moyen-moyen, et où il y a énormément d'incertitudes sur les revenus. Donc l'idée, c'est aussi d'assurer la question du logement pour ensuite ne plus être angoissé et pouvoir continuer à assumer le choix professionnel qu'on a fait. Donc dans ce choix résidentiel, je ne détaille pas davantage, mais il y a des enjeux de trajectoire familiale, comme toujours dans les choix résidentiels, mais aussi des enjeux professionnels assez forts. Le local professionnel, mais aussi la localisation, rester à proximité des réseaux. Edmond Pretzel, qui travaille sur la ségrégation, a montré qu'en Ile-de-France, la PCS au niveau détaillé, qui est la plus agrégée dans l'espace, c'est les professions de l'information, des arts et des spectacles, la PCS 35. Et ce n'est pas un hasard, c'est des professions dans lesquelles le réseau compte plus que tout, hein, et on est sans cesse en train de chercher le nouveau contrat, la nouvelle embauche, donc il faut absolument côtoyer des gens de son milieu professionnel. Donc des enjeux professionnels, évidemment des enjeux de goût et de préférence qui vont être extrêmement forts et qui font par exemple rejeter l'installation dans des banlieues plus lointaines et notamment dans des tissus pavillonnaires qui suscite le dégoût, je vais y revenir dans un instant, et puis des ressources, hein, des enjeux, au-delà de ces enjeux, il y a, face à ces enjeux, pardon, des ressources qui sont limitées mais qui sont quand même réelles, donc il faut le dire, si l'accession à la propriété est possible pour ces ménages-là et pas pour plein d'autres intermittents, indépendants, etc., c'est qu'il y a un patrimoine familial. Quasiment tous mes enquêtés ont bénéficié d'une aide familiale et cette aide, c'est-à-dire l'apport de la famille était minimum de 25% du montant de l'acquisition, alors que en France, hein, selon l'enquête logement de 2003, seulement un quart des accédants à la propriété bénéficient d'une aide familiale. Donc aide familiale importante qui peut aller jusqu'à 50%, 100% du montant de l'acquisition, sachant par ailleurs que ce n'est pas les prix d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils achètent tous pour environ entre 80 000 euros, 100 000 euros, 150 000 euros, soit un petit pavillon à refaire, soit un local industriel à transformer. Donc l'ensemble de ces enjeux et le niveau des ressources les conduit vers le Bas-Montreuil, y compris pour les effets de bouche à oreille, les raisons de bouche à oreille que j'ai indiquées. Mais le problème, quand même, c'est de franchir le périphérique. Hein, et c'est assez difficile de quitter Paris intramuros. Pour ces gens-là, soit qu'ils soient pour parisiens d'origine et qu'ils soient toujours restés dans Paris, soit qu'au contraire ils viennent de province et que pour eux, l'ascension c'est d'être dans Paris, c'est pas d'aller en banlieue. Donc c'est assez mal vécu de devoir aller en banlieue, c'est un peu un déclassement résidentiel. Et je vais pas insister sur cette variable générationnelle puisque je la développe pas ici, mais on voit clairement quand même un renforcement de cette peur de la banlieue au cours des années 90, qui sont les années de mise en forme du problème, de ce qu'on a appelé le problème des banlieues ou le problème des quartiers sensibles, et toutes ces années d'institutionnalisation de la politique de la ville, qui va produire quand même des effets de stigmate assez importants sur les banlieues françaises, notamment la Seine-Saint-Denis, le 93, etc. Donc, dans cette deuxième génération que j'explore aujourd'hui, hein, qui arrive à partir du milieu des années 90, on a quand même une frontière dans les représentations qui est très nette, qui passe d'abord sur le périphérique, hein, entre Paris et la banlieue, et dont je me rends compte en discutant avec eux, et eux-mêmes se rendent compte que cette frontière, en réalité, dans leur représentation, c'est pas tant Paris-banlieue que le bâti ancien versus les grands ensembles. Mais comme on sait, quand on en est loin de la banlieue, avec les représentations médiatiques, on identifie banlieue, grands ensembles, alors que la banlieue est éminemment diverse. Donc j'ai des enquêtés qui me disent, par exemple, la banlieue, j'y mettais jamais les pieds, il y a cette espèce de frein, la banlieue, déjà à l'époque, on commençait à parler des banlieues plutôt en mal, et c'est vrai que dès que ça faisait trop banlieue, on laissait tomber. Ils me racontent leur visite immobilière. Effectivement, dans les visites, à chaque fois que les enquêtés disent qu'à chaque fois qu'ils avaient dans leur champ de vision un immeuble qui ressemblait aux grands ensembles, c'est-à-dire soit une tour, soit une barre construite dans les années 60, ils refusaient le logement. Un autre, il me dit, on a tous des a priori par rapport à la banlieue. C'est vrai qu'il y a des banlieues qui craignent, c'est évident. Tu vas dans les cités, qui aurait envie d'y aller? Tu vois, les gens, s'ils y sont, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Qui aurait envie d'aller là-bas? Et une autre, plus laconique, qui me dit, tu sais, quand t'es parisien, l'idée d'aller en banlieue, c'est affreux. Donc ça, c'est le récit du moment du choix résidentiel. Et puis, bah, quand même, ils n'ont pas tellement le choix. Donc ils arpentent quand même Montreuil, d'autant que leurs copains, collègues leur disent, si, si, tu vas voir, il y a des opportunités. Vraiment, le bouche-à-oreille joue beaucoup. Et ils se rendent bien compte que le Bas-Montreuil, finalement, ne ressemble pas au quartier sensible, que c'est un tissu faubourien, certes un peu plus pourri, un peu plus hétéroclite que ce qu'ils voient dans le 11e ou dans le 20e, mais que finalement, ça ne ressemble pas aux cités des grands ensembles, aux cités HLM qu'on voit à la télé. Et puis, ils anticipent aussi, c'est une hypothèse que je fais, mais voilà, à travers ce qu'ils perçoivent du bâti, ils voient bien que c'est un bâti qui peut laisser, ils voient bien, c'est pas conscient, mais je pense que inconsciemment le bâti leur indique qui vit dans ces logements-là et leur indique qu'il y a un rapport de force local potentiellement favorable par rapport aux autres habitants. Je m'explique, dans des immeubles vraiment décrépits du long de la rue de Paris, c'est clair que c'est des marchands de sommeil et c'est clair que c'est des migrants qui sont primo-arrivants et qui ne vont pas imposer leurs lois ou leurs normes ou faire valoir leur manière de vivre comme pourraient le faire des classes populaires enracinées dans une cité HLM, là depuis longtemps, avec leurs habitudes, avec la force du collectif, avec la légitimité du bail, etc. Donc des gens qui sont précaires, ou bien un tissu dont ils savent aussi que c'est un tissu de faubourg qui est voué à se gentrifier, parce que la vulgarisation scientifique, ça sert aussi à ça, à accélérer les phénomènes sociaux. Donc finalement, le Bas-Montreuil est plutôt rassurant par rapport au reste de la ville. Malgré tout, il y a un travail qui est nécessaire pour se faire à cet espace. L'expression a vraiment du sens dans ce cas-là. Il faut se faire soi-même à cet espace, transformer son regard, et puis faire l'espace à soi-même, l'ajuster aussi à ses goûts. Produire, là je me permets d'importer la phrase de Bourdieu dans le champ urbain, produire des espaces ajustés à leurs ambitions, plutôt que d'ajuster leurs ambitions aux espaces qui leur sont accessibles. Comment va être mené ce travail? Le premier travail qui est fait, c'est une conversion du regard. Une conversion du regard, c'est d'apprendre à voir son nouveau quartier avec des yeux un peu plus tendres que lors des visites, des premières visites immobilières. Par exemple, il y a cette expression, il y a ce terme un peu magique qui est le charme, comprendre le charme d'un endroit. Le charme, c'est en fait opérer ce reclassement symbolique des lieux, en tout cas à titre privé déjà, reconnaître une valeur au lieu. Et donc, par exemple, j'ai ce couple qui discute pendant l'entretien, et lui me dit au début, on était extrêmement dérangés visuellement, il n'y a pas deux maisons qui se ressemblent, c'est tout un truc. Elle, oui, c'était dur, hein. Ceci dit, après, moi, j'ai fini par comprendre le charme de ces endroits, le côté complètement hétéroclite, éclaté même. Il y a un vrai charme à tout ça. Hein. Il n'y a pas une maison qui est semblable à l'autre. Tout est très habité. Donc, il dit la même chose deux fois, c'est très hétéroclite, mais une première fois, ça le gêne, et puis une deuxième fois, finalement, il trouve ça charmant. Et puis, je me rends compte aussi, donc je pourrais donner d'autres exemples, il y en a d'autres dans le bouquin, mais on se rend compte, du coup, dans cette phase de l'entretien, les entretiens durent assez longtemps, 2 heures, 3 heures, quand il me raconte cette phase-là, on est déjà loin du récit de la recherche immobilière et les termes ne sont plus les mêmes. Et notamment, la manière dont ils vont me parler de leur nouveau quartier, c'est en des termes différents. Et notamment, je vois que le mot banlieue a disparu. Alors qu'ils me disaient la banlieue, c'était difficile d'aller en banlieue, etc. Après, ils me disent, finalement, on se plaît bien ici. Il y a des gens qui créent des comités de quartier, des gens qui sont assez actifs malgré tout. Il y a des écoles, ils sont surpris, des écoles. Il y a une école de musique qui est géniale. Non, mais il y a plein de choses dans les petites municipalités. Montreuil fait quand même 100 000 habitants. C'est la deuxième commune la plus peuplée en Ile-de-France. La troisième, pardon. Le soir, quand la journée est terminée, ça devient comme en province ici. Il y a un calme que tu n'as pas à Paris. Donc il y a tout un travail sémantique aussi, hein, qui est fait, pareil, à leur insu, mais qui permet de désigner autrement cet environnement. Une autre qui me dit, elle a aussi une propension très très forte à se mettre en scène, je pourrais en dire long parce que c'est aussi analysable du point de vue de sa trajectoire sociale, c'est la fameuse Julie qui a fait ses études de décoration et d'archives d'intérieur, qui dit, quand je vais à Paris, c'est exactement comme les gens qui sont en province et qui n'ont pas la ville. Tu sais, c'est la tête qui tourne, qui regarde tous les magasins parce qu'il n'y a pas ça ici. D'ailleurs, maintenant, pour rigoler, quand je vais à Paris, je ne dis pas « je vais à Paris », je dis « je monte en ville ». Et puis encore une autre qui dit « un truc que j'aime bien à Montreuil, c'est les mouches comme à la campagne ». Donc, des manières de reclasser qui sont toutes également justes. Il y a effectivement des mouches. Au moment, elle me dit ça parce que quand on fait l'entretien, il y a des mouches dans sa cuisine. Tout ce qu'ils disent est exact. C'est juste une autre manière de voir les lieux. Ce travail de conversion du regard, il va passer également par une réappropriation sélective de l'histoire locale. On commence à se renseigner sur cette banlieue, sur ce faubourg, et justement, on va passer d'une lecture en termes de banlieue à une lecture en termes de faubourg. Le terme faubourg permettant de désigner un épisode historique antérieur à celui des banlieues, des fameuses banlieues de grands ensembles construites pendant les Trente Glorieuses et synonyme de la classe ouvrière qui a ensuite connu la crise, le déclin, etc. Donc, les récits vont systématiquement mettre en avant des figures individuelles d'artisans. C'est pas la classe ouvrière, c'est pas les ouvriers immigrés qui logeaient dans les garnis ou dans les petits immeubles. C'est des figures individuelles d'artisans qui ont été des inventeurs de génie. Alors, on met en avant l'inventeur du container, qui aurait habité dans telle maison, celui qui a restauré, une qui me dit le petit papy qui habitait là, c'est lui qui a restauré le toit du palais Garnier. J'imagine qu'il l'a pas fait tout seul. Mais. Des élites ouvrières qui ont un savoir-faire et qui sont au service de nobles causes. Et puis aussi tout un tas de figures de la culture populaire. On me parle de Brel qui aurait habité quelques mois à Montreuil, on me parle de Reggiani. Par contre, moi j'ai cherché aussi dans les bouquins à la médiathèque, il y a également Sim, je ne sais pas si vous voyez Sim, un humoriste qui disparaît.
Les grosses têtes,
ouais. Oui, voilà. Alors ça, il ne m'en parle pas du tout, par exemple. Donc voilà, il y a une appropriation sélective des gens qui ont vécu dans la ville et qui pourraient potentiellement être mis en avant comme des célébrités locales. Et puis, dernier point de ce travail de conversion du regard, ça va être la diffusion de cette nouvelle imagerie au-delà, à l'extérieur du quartier. Et c'est là qu'il y a un travail aussi de production symbolique qui est important. Cette imagerie, d'abord moi, je la reçois quand je viens faire les entretiens. Je suis une destinataire privilégiée puisque après moi je vais aller parler de la ville ailleurs. Donc on me présente le quartier de cette manière. J'ai aussi un enquêté par exemple qui fait du dessin et donc qui dessine son quartier, mais qui dans ses dessins, pareil, il sélectionne et il a un regard assez nostalgique et il va systématiquement ne dessiner que l'habitat fin 19e, début 20e, avec des traces de présence d'artisans, de petits commerçants, la présence de la nature également qui envahit des jardins, etc., et des lieux qui sont voués à disparaître, d'après lui. Et donc, il sélectionne parce que dans le tissu urbain du Bas-Montreuil, il y a évidemment ce tissu faubourien, mais il y a aussi des constructions des années 80 qui n'ont rien à voir avec ça. Et puis, ce qui est... comment dire, là où cette classe sociale peut être comme fraction de la bourgeoisie est particulièrement opérante dans ce travail de production symbolique, de production de jugement, de valeur, c'est qu'elle manipule professionnellement l'image, le texte et les supports de la diffusion de ces images et de ces textes. Donc il y a plusieurs enquêtés qui réalisent des films sur leur quartier et j'ai trouvé également des enquêtés qui avaient, enfin pas des enquêtés mais d'autres gentrifieurs qui ont fabriqué un magazine sur la ville qui est une splendeur, un concentré de la vision de ce groupe social et de ses valeurs et de ses goûts. Je le raconte aussi dans le bouquin, mais chaque article met en valeur un goût propre à ce groupe social. Et donc tout ça va contribuer à la diffusion. Et puis parmi leurs réseaux, ben, y a des journalistes. Et puis ce sont les journalistes qui sont amenés à faire les dossiers immobiliers pour Capital, Urban, Télérama, etc. sur cette banlieue qui se transforme. Et donc c'est aussi comme ça que les gens qui sont interviewés dans ces articles sont finalement ces habitants en train de transformer leur regard sur les lieux. Donc voilà pour ce qui est de la conversion des regards. Je vais juste développer ce deuxième point sur les travaux avant de conclure, puisque là, c'est la production vraiment matérielle, et c'est vraiment là que s'exerce de manière très très forte la question du goût, en fait. Hein, le travail du goût sur les logements. Donc, ces enquêtés que j'ai rencontrés ont donc transformé, réaménagé les lieux qu'ils avaient achetés. Ces travaux sont l'occasion d'exprimer des goûts, d'exprimer aussi des dispositions, notamment faire une partie des travaux soi-même. C'est des dispositions pratiques, c'est aussi un ethos particulier, refuser le confort immédiat, refuser d'acheter, refuser la consommation de services si on peut faire soi-même ou apprendre à faire soi-même. Donc exprimer un ethos dans les manières de faire, et puis mettre en œuvre des ressources. Pareil, je ne développe pas, c'est développé dans le livre, mais ils ont toute une palette de ressources autres que l'argent. Hein, il y a un peu d'argent, mais il y a aussi beaucoup de temps, du savoir-faire, du réseau, une capacité à obtenir des informations. Toutes ces ressources-là sont exploitées à fond dans les travaux qui sont menés dans les logements. Le travail de transformation des lieux va, quant à lui, jouer, exprimer des goûts, mais aussi jouer avec des formes architecturales classantes. Et notamment, il y a tout un travail de prise de distance ou de rapprochement avec des esthétiques, par exemple l'esthétique du loft, qui est très valorisée, ou encore de l'appartement bourgeois, qui est cité de manière plus discrète, mais qui est néanmoins assez présent, ou de l'esthétique du pavillon de banlieue, qui, elle, va être mise à distance, comme on peut le voir sur ces photos, par exemple. C'est un couple, Loïc et Bérangère, lui, originaire, donc parent coiffeur dans les Vosges, qui lui aussi a cette trajectoire où il s'est fabriqué un peu sa profession sur mesure. Il avait fait un BTS de jardinier, puis ensuite il a voulu faire de la photo. Il est devenu photographe de jardin, il s'est créé sa petite niche aussi, sa spécialité. Elle conçoit des expositions pour la Cité des Sciences à la Villette. Et ils achètent ce pavillon. Là, on ne voit que la véranda à l'arrière, mais le pavillon fait un étage. Hein, il y a un rez-de-chaussée plus un étage. Et ça, c'est avant les travaux, le jardin. Donc au début, évidemment, ils veulent une maison ancienne. Ils ont visité, ce qu'ils me racontent, on avait visité une très vieille maison qui datait de 1890, quelque chose comme ça. C'était absolument splendide. Les murs étaient à la chaux, il n'y avait pas un seul plancher horizontal, c'était pur jus. Il y avait une partie rez-de-chaussée qui était encore en terre cuite, il y avait de l'histoire, quoi. Et ils ne peuvent pas l'acheter parce qu'elle est un peu trop chère et qu'il y a vraiment trop de travaux par rapport à leurs ressources. Et à la place, ben, ils visitent cette maison-là et ils trouvent ça vraiment à l'opposé de ce qu'ils veulent. C'était une maison qui était pleine de barreaux à chaque fenêtre. C'était une petite vieille qui habitait là, puis elle avait mis un truc blindé, c'était absolument affreux. La femme continue. Cette maison, elle était en crépi, en blanc, enfin tout ce qui était. Et puis le jardin, c'était un bâtiment ici, un bâtiment au fond, et une allée, un affreux rosier. C'était de la pelouse, un affreux rosier, et un chemin de dalles en pavillon, des dalles de béton, tout droit. C'était austère, très froid, clinique. Voilà, c'était clinique, aseptisé. Et lui rajoute, ah oui, aucune araignée, rien du tout. Hein. Oh non, il n'y avait même pas d'odeur quand on est rentré. Tu te souviens, c'est fou ça. Oui, c'était vraiment l'inverse de ce qu'on cherchait. Donc d'un côté, il y a des araignées, des odeurs, l'ancienneté authentique. De l'autre, l'affreux rosier, la pelouse, les dalles de béton, les barreaux, le crépi blanc, qui sont tous les attributs du pavillon austère et propre. Voilà, donc ils veulent absolument transformer cette maison. Ils l'achètent pour des raisons, par raison, comme ils disent, parce qu'elle est dans leur prix et qu'ils peuvent faire des travaux. Et donc ils disent, on l'a négocié 640 000 francs, on s'est dit, maintenant à nous d'y mettre le charme qu'on ne trouve pas. C'est pas impossible, ça va demander du boulot, mais c'est pas impossible. Et donc, donc le jardin après les travaux, sachant que donc lui a fait des études de jardinier hein, quand même, et puis l'appentis du fond qui est devenu un labo photo, justement, l'usage de la baie vitrée, bien sûr, et puis dans le jardin également, vous voyez ce mur de crépi blanc qui est devenu un mur faussement vieux. puisque voilà, la peinture fait vieille, mais elle n'est pas très vieille. Et puis les panneaux qui ont été dérobés dans des jardins publics, donc ils me racontent ça, ils se font une fierté de dérober des trucs dans les jardins publics. Les dalles de crépi blanc, de béton blanc qui ont été remplacées par des pavés. Ouais, voilà, je vais conclure, mais vous voyez bien, donc les pavés ont été, ils les ont récupérés chez quelqu'un d'autre, etc. Donc après on fait jouer le réseau, la débrouille, qui sont aussi des choses qui sont valorisées, c'est-à-dire des compétences hein, qui sont valorisées dans ce milieu social, avoir un sens de la débrouille, un sens de la récup, également avoir une capacité de discernement au-delà de l'étiquette du prix. Hein, ça, c'est une compétence qui est reconnue par les pairs, être capable de discerner ce qui est beau ou ce qui est laid, ce qui est un matériau de bonne qualité ou de mauvaise qualité, en dépit du prix affiché. Hein, on ne pas se fier à l'étiquette du prix. Donc, qui est en quelque sorte un désaveu à l'égard du système marchand, hein, qui fait partie aussi de la culture de ce groupe social. Et puis, l'inventivité hein, que viennent prouver ces agencements, ces aménagements. Dans le jardin, il y a une baignoire aussi qui a été posée là pour faire piscine pour les enfants pendant l'été. Il y a une photo, ben, je ne l'ai pas là, mais une douche, ils ont installé une douche où ils se douchent dans le jardin pendant l'été. Donc, une inventivité, une liberté à l'égard des normes de l'habitat dominante. Et puis, voilà, ce sens pratique, ce sens de la débrouille et du réseau. Donc, voilà, d'autres façades, il faut faire preuve de transgression, d'audace. Donc, on voit dans les couleurs qui sont utilisées. Et puis, donc, jouer avec ces architectures classantes, notamment faire référence au style industriel. C'est important. Voilà, donc je ne vais pas développer sur un troisième aspect de ce travail de transformation des lieux qui est peut-être moins central ici parce que c'est, enfin, bien que ce soit aussi un travail sur le goût, c'est comment transformer l'ensemble du quartier aussi, donc en s'investissant dans des associations locales pour la reconnaissance d'un patrimoine historique, hein, qu'il faut pourtant pas mal chercher dans Bas-Montreuil, pour l'aménagement de formes de mixité sociale, pareil, ce terme évidemment fait l'objet de multiples définitions et d'un travail. Et puis tout un travail sur la vie culturelle locale. Mais juste sur ce dernier aspect de l'investissement au-delà du logement dans le quartier, quelque chose qui est important pour boucler la boucle de cette question des classements en fait, opérés par cette bourgeoisie, c'est le fait de réussir à créer un groupe social local en s'investissant voilà, dans les écoles, les associations, etc., qui m'est apparu comme quelque chose d'absolument nécessaire. Parce que cette revalorisation des logements, qui est à la fois symbolique et économique, elle n'est possible que si le travail esthétique et matériel qui est fait est reconnu de valeur par d'autres gens. Donc il faut qu'il y ait des tiers ayant un pouvoir de légitimation, ou en tout cas d'institutionnalisation, de la valeur de ces nouveaux espaces qui sont créés. Et donc, quand on voit après, dans la presse, par exemple, donc les coupures de presse, la manière dont le quartier est présenté, on voit que ce travail a été mené jusqu'au bout, puisque, par exemple, dans le chapeau, les Parisiens se font volontiers oiseaux migrateurs, direction périphérique. Là, les ateliers, les usines et les pavillons sont réhabilités par des artistes, des stylistes, des branchés. Donc, c'est par quoi on appréhende ce groupe social, c'est par les lieux qu'il s'est créé, et ça, c'est systématique. Dans tous les textes qu'on trouve après sur les bobos, on appréhende ce groupe social à travers les lieux et les médias viennent instituer et comment dire, légitimer la revalorisation de ces lieux. Voilà, j'avais trouvé plein de choses, des petites citations pour boucler la boucle avec Bourdieu, Gobelot, etc., mais ça pourra venir dans la discussion. Ouais, il y aura juste peut-être un dernier élément, mais on verra dans les questions. Sur, je trouve un écho vraiment troublant avec. Ce que vous avez dit sur les deux paralogismes, bien sûr, hein, et notamment ce paralogisme de jugement. Donc, il y a des jugements de goût qui se font passer pour des jugements de fait, hein, bien sûr. Et puis, dans le paralogisme des critères et le fait de confondre plus ou moins volontairement ou involontairement stratégie collective et stratégie individuelle, être original collectivement. Et en même temps, ne pas être excentrique dans sa propre classe. Il y a des choses très fortes qui se jouent dans le quartier et également dans les relations sociales de voisinage, hein, que j'ai pu analyser, avec notamment, quand on analyse les tensions entre voisins, des choses assez fortes, où il ressort, en tout cas au moment où moi je mène l'enquête, que le travail de reclassement du quartier n'est pas encore suffisamment costaud, solide, institué peut-être, pour qu'on puisse jouer la carte de l'excentricité totale. C'est-à-dire qu'il faut faire bloc encore, Et donc, ça, c'est plutôt dans la manière de s'affilier au groupe ou au contraire de montrer des distances. J'ai des entretiens avec des gens qui, en fait, se sentent pas si bien que ça dans ce groupe social local, même s'il y a plein d'amitiés qui se sont développées, etc. Mais qui hésitent à faire peur de leur dissension, de leur prise de distance. Parce que, donc, en gros, l'enjeu, juste pour dire en trois mots, c'est ces artistes de Montreuil, qu'est-ce qu'ils valent ? Hein ? Et donc, j'ai des enquêtés qui me disent, mais il faut pas se leurrer. Les artistes de Montreuil, c'est tout et n'importe quoi. Y en a qui se disent artistes, mais qui n'ont aucune qualification, ce qu'ils produisent n'a aucune valeur, etc. Allez au Louvre, allez à Montreuil, vous verrez la différence. Bon. Et donc, certains s'autorisent cette mise à distance et ont participé pourtant à la mise en place de cette image du Montreuil artiste et après coup, prennent leur distance. Par exemple, en emmenant, il y en a une qui me dit « il faut absolument que mes enfants voient la différence entre Paris et Montreuil ». C'est-à-dire que Montreuil, c'est bien, moi je suis contente. En plus, elle a transformé sa profession pour devenir professionnelle de l'immobilier. Elle a converti 5 usines ou maisons, elle a fait énormément d'argent avec ce processus de revalorisation. Mais une fois que sa position à elle est établie, elle dit « il ne faut pas que mon fils confonde et je vais l'emmener voir ce que c'est que la vraie culture et les vrais artistes ». Et donc elle l'emmène et elle fait des tours dans Paris avec lui pour lui montrer le Louvre, etc. Et qu'il apprenne à faire la distinction entre la vraie culture ou la vraie bourgeoisie en fait, à laquelle elle aspire profondément et cette bourgeoisie un peu intermédiaire qui essaye quand même de se trouver une place et de se fabriquer une place dans l'espace social parisien.